Les échos de la toundra. Salutations glaciales, cadavres de la capitale nationale! Sous les auspices de Silapinois, diabolique divinité des vents frigorifiques, encore je vous arrive dans mon rôle de magister sacratorum, passionnément prêt à vous apporter de sombres révélations et de farouches contemplations de la toundra nunavutoise. Cette fois, la thématique partagée entre la gang Matraque et moi pour cet épisode-ci d'Ars Macabra est celle de l'immortalité. Un concept assez étrange et immesurablement fascinant pour moi. Qu'on ait une âme et que celle-ci, immatérielle et purement spirituelle, puisse exister éternellement, que ce soit en tant qu'idée tout court ou tout simplement en tant que croyance, cela, je dois vous l'avouer, je l'ai toujours trouvé vraiment crissement bizarre et même enfantin. Comme bien des francophones de ce pays, l'immortalité m'a été présentée par mes parents, des enseignants et des autorités catholiques, sans oublier les innombrables dictons, proverbes, expressions, contes, chansons folkloriques et produits des médias populaires qui nous encouragent à accepter le drame et le sentimentalisme derrière une telle croyance. Et même qui attisent en nous le besoin d'y croire. Mais sans s'arrêter sur son bien fondé, juste à le questionner en adoptant une position pragmatiste, on va découvrir le ridicule de la chose. À quoi bon peut servir l'immortalité, bien franchement? À vrai dire, il s'agit d'une frivole et futile croyance, hein? Mais je vous partage une anecdote personnelle que j'espère va vous amuser, mais aussi exposer mon point. Il y a quelques années, je parlais à ma mère, une femme qui s'est convertie au christianisme baptiste suite à son deuxième mariage. On jasait de tout et de rien, puis on a commencé à parler de son église, la Hillside Baptist Church à Moncton. Je lui pitcha alors tout bonnement la question. « T'sais, mam, quand tu vas aller au ciel, qu'est-ce que tu vas faire là, anyway? » Ben, bredouille, ma question pourtant directe et simple l'avait bien bouleversée. « Hein, qu'est-ce que tu veux dire là? » Donc, je lui relança. « Tu as fait le choix de te convertir au baptisme. Toi et ton mari, vous avez plusieurs amis qui font partie de votre congrégation et tu manières de croire en Dieu. Puis finalement, tu veux finir au ciel, n'est-ce pas? C'est comme le but d'être chrétien, ouais? Ben, une fois rendu là, qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? L'éternité, c'est vraiment fucking long. Donc, j'espère que tu as des bons plans pour quand tu vas y être. » À quoi elle ria tout simplement puis répondit « Ben, je sais pas trop. » Et moi, pour le fun, je lui ai répliqué à cela « Ben, moi, je serai pas là anyway. Alors, on pourra pas comme hang out. » Puis, de toute façon, bonheur pour toujours, ça paraît vraiment ennuyant comme right fucking boring. Tu devrais venir avec moi en enfer. Là-bas, le monde est donc bien plus intéressant. Bon, elle m'a trouvé bien drôle et clairement, c'était de la dérision pure que je lui faisais pour la taquiner. Mais quand même, je lui ai parlé ainsi dans le but d'explorer une croyance tellement bien ancrée et depuis si longtemps que nous l'acceptons souvent de façon irréfléchie. Moi-même, je n'y avais pensé comme ça que là et Chris, c'était une bonne question après tout. Alors, ce soir, avec vous, congrégation macabre, je vais pareillement vous inciter à y réfléchir davantage et je vais aussi vous brasser et vous pousser à de grands questionnements. Commençons avec des corrections absolument nécessaires. Reconnaissons en premier que l'immortalité ne veut pas dire vie éternelle. L'éternité n'a pas de début. Donc, ce qui est exprimé est plutôt un concept de vie prolongée, qui continue au-delà des contraintes de la mort, même si on parle de réincarnation. Mais une plus grave correction doit être faite, et là, je reprends le reproche du professeur d'université Oscar Coleman qui avait dit « Posez à un chrétien, protestant ou catholique, intellectuel ou non, la question suivante. Qu'enseigne le Nouveau Testament sur le sort individuel de l'homme après la mort? À très peu d'exceptions près, vous aurez toujours la même réponse, l'immortalité de l'âme. Mais cette opinion, quelque répandue qu'elle soit, est un des plus graves malentendus concernant le christianisme. Hé, mais vous savez quoi? Il y avait bien raison. En premier, tel qu'expliqué et itéré depuis au moins le début 4e siècle dans le Credo de Nicée, où les chrétiens professent en chœur « Je crois à la résurrection de la chair et à la vie du monde à venir. » L'immortalité n'est pas spirituelle, mais aussi charnière, l'âme n'étant pas du tout séparée du corps. Elle est alors une reconstitution du corps, une renaissance du croyant entier après son décès complet, rappelé à la vie par un nouvel acte créateur de Dieu. Il n'y a alors aucun séjour sans fin et spirituellement, immatériellement vécu dans un au-delà céleste ou dans un gouffre infernal. De plus, comme le judaïsme qui l'a précédé, le christianisme original ne croit pas que l'immortalité soit naturelle. En fait, l'idée de l'immortalité de l'âme est venue des platonistes grecs, des philosophes païens, et leur croyance s'est infiltrée dans les diverses religions populaires de l'époque comme les cultes des mystères helléniques et, éventuellement, le christianisme. Un métissage a pris place et a été ensuite systématisé baptisé par Saint Augustin d'Hippone, le grand docteur de l'Église du 4e siècle, lui-même un néoplatoniste de profonde conviction. Et ce ne sera que plus tard, un millénaire en fait, que l'immortalité de l'âme sera proclamée comme dogme officiel pour les croyants catholiques. Alors, vu objectivement, cette croyance de vie immortelle est à sa base nettement païenne et possiblement mystique, et elle est certainement une perversion de la tradition biblique. Remarquons aussi que dans le christianisme, la vie supranaturelle ne suit pas immédiatement la mort de toute façon, mais vraiment ne viendra qu'à la fin des temps. Car après la mort, en premier prendra place le jugement particulier, et ce n'est qu'après l'apocalyptique seconde venue du Christ et le jugement dernier qui le suivra que se produira la résurrection universelle des morts. Juste alors débutera la vie paradisiaque ou bien la condamnation éternelle aux enfers. Et finalement, apprécions que les croyances chrétiennes exactes autour de l'immortalité de l'âme n'ont jamais fait l'unanimité, aujourd'hui comme depuis la genèse même de leur étrange religion, et que son histoire de 2000 ans est extrêmement complexe. On n'a même pas parlé de la croisée entre le christianisme et le paganisme celto-germanique, de l'impact des et la réaction aux nombreuses hérésies, de la complexité des nuances souvent vastement contrastantes entre foi officielle et les croyances populaires, et enfin, pour donner un dernier exemple, du développement de nouvelles idées pendant la Renaissance, l'époque des Lumières et lors des révolutions industrielles et scientifiques. À l'extérieur du cadre chrétien, bien d'autres croyances ont été transmises, même juste en Europe et au Proche-Orient. Les Égyptiens, les Sumériens, les Grecs, les Romains, les Gaulois, les Teutons et les Musulmans, entre autres, avaient et ont chacun leurs croyances particulières. Et au-delà le cadre occidental, en Asie, en Afrique, en Océanie et aux Amériques, la variété est encore plus étonnante. On pourrait parler de réincarnation, de transmigration, de métapsychose, de métamorphose, de démonisation, de hantise, d'éternel retour et oui, d'extinction en poussière tout court. Honnêtement, la variété des croyances comme la similitude de certains éléments saillants font de l'étude de tout cela une fascinante aventure interculturelle. Mais là, revenons à l'intention première de mes chroniques des échos de la toundra et avec précision, examinons ce que l'immortalité représente dans le black metal. En fait, là aussi, l'immortalité est un de ces concepts les plus accessibles mais les plus facilement mal compris. Ce qui est vraiment fucking intéressant, c'est que dans le black, l'immortalité comme idée semble être évoquée afin d'exprimer soit une de quatre choses. Lorsque possédé par des humains, il s'agit d'un pouvoir, presque toujours acquis par le mérite d'une volonté, d'action ou d'émotion surhumaine, ou encore de punition et de malédiction. Mais autrement, elle est une force inhumaine, la manifestation même de la suprématie de la nature, éternellement changeante, mais pareillement éternellement présente. Et finalement, l'immortalité dans le black est tout simplement une réitération des croyances chrétiennes qui voudraient que l'âme de l'individu finisse en enfer, au paradis ou au purgatoire. Cette dernière instance, bien franchement, m'intéresse moins à présent, car elle relève d'une mythologie relativement simple à comprendre et, selon moi, une qui est assez puérile. Dans une phrase, ça expose le naïf souhait chrétien de vouloir interminablement bénéficier du bonheur égoïste et ça exagère la très sotte crainte du sévère jugement parental. Mais regardons le premier de ces cas, celui de l'immortalité acquise. Ça, c'est intéressant. Dans multiples chansons et titres d'albums, on nous est offert une singulière aspiration, comme si le disciple black reprenait à sa sombre couleur ce plus poignant souhait des anciens héros, la quête de l'immortalité. Celle-ci est, après tout, une archaïque et presque universelle fixation, et les multiples et parfois surprenantes tentatives de l'accomplir témoignent de son importance. Parmi les plusieurs exemples de cela, on pourrait penser aux grandes pyramides et aux pratiques funéraires des pharaons de l'Égypte, ainsi qu'aux costumes de jade et aux complexes tombes des empereurs de la Chine antique. La mythologie aussi nous en fournit des preuves, ce monument de la sagesse collective. Pensons à l'épique de Gilgamesh, produit vers l'an 1800 avant l'ère commune et un des plus anciens textes que nous avons. Son héros titulaire, voulant acquérir le secret de la vie éternelle, cherche Utnapishtim, avec son épouse, un des seuls survivants du grand déluge et les seuls humains à avoir reçu des dieux le don de l'immortalité. Ailleurs, au Japon du 8e siècle, nous avons le texte Manyoshu, le recueil de 10 000 feuilles, la première anthologie de poésie japonaise qui fait mention des Oshimizu ou les eaux de rajeunissement, le trésor du dieu de la lune Tsukuyomi, recherché par des hommes pour ses propriétés magiques. Et en Europe médiévale, dans le cycle arthurien, nous avons Galahad, l'un des trois chevaliers à trouver le Saint Graal et parmi eux, le seul à avoir atteint l'immortalité grâce à l'objet sacré. Mais certains penseurs, philosophes et aventuriers plus fermement établis dans le monde réel entreprirent de véritables tentatives afin d'atteindre leur immortalité physique. Les alchimistes de la tradition hermétique viennent tout de suite à l'esprit, dont le grand œuvre consistait à fabriquer la pierre philosophale, une substance capable de transmuter les métaux vils en métaux précieux, mais aussi guérir les maladies et prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes naturelles. C'est ainsi que Nicolas Flamel et le comte de Saint-Germain, selon les spéculations de certains, seraient devenus immortels. Et à la Chine, nous avons aussi là une tradition alchimiste particulière, empreinte de philosophie taoïste, qui retient comme une de ses préoccupations les plus importantes l'atteinte de l'immortalité. L'aspirant taoïste se devait de mener à terme des exercices spirituels et physiques, et alors une mutation prendrait place et il deviendrait léger, au point de pouvoir s'élever dans les nuages et là, chevaucher avec les dragons ainsi devenus immortels comme eux. En Inde, on raconte la légende du Chintamani, le joyau de l'esprit. Lié aux dieux Vishnu et Ganesh et dans le bouddhisme à Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion, le joyau est similaire à la pierre philosophale de l'Occident. Il peut transmuter des métaux en or et en argent et aussi prolonger la vie. Et en plus de cet objet, c'est en Inde que des croyances, pratiques et traditions hindoues donnèrent naissance au yoga. Pareillement, une sorte d'alchimie spirituelle qui retient dans ses techniques gymniques, respiratoires, purgatifs et spirituels ce pareil but. Mais dans tout cela, rappelons-nous en fait que le moyen le plus sûr d'atteindre l'immortalité a été et toujours sera l'art et la parole. Cela, les poètes teutoniques et les bardes celtiques le savaient. C'est en chantant et en récitant les mérites et l'honneur de ces grands guerriers d'autrefois que l'immortalité devient possible. Tout juste comme le savent les peintres, les sculpteurs et les architectes de la préhistoire jusqu'à nos jours, on reconnaît qu'en manipulant magistralement les potions colorées en illusions tangibles, en gravant adroitement la pierre brute et elle-même quasi éternelle et en érigeant des structures pélagiques et cyclopéennes contre le ciel divin, qu'une vraie magie est possible, celle de la mémoire et de l'exaltation sur les plusieurs générations. Pour apporter cette réflexion à son comble et comprendre l'intégration de l'immortalité au corpus du black, apprécions comment le black metal constitue en soi une véritable alchimie musicale, dont le magnum opus dépasserait même l'ambition de l'expression de la volonté individuelle et assurerait la perpétuation de celle-ci ad aeternam. Dans un monde de plus en plus empreint de prodiges éphémères et de grandeurs négligeables, de valeurs amoindries et d'héroïsme brimé, d'individualisme édulcoré et de adynamie généralisée, il n'est point étonnant. Il nous faut les grands moyens pour assurer un violent coup dans la gueule de la civilisation et du temps, et ce, sur le long terme. Référons-nous à des formations importantes comme le colossal Immortal de la Norvège, à des albums comme Nous redeviendrons immortels des maîtres français de Aldaron, à des pièces comme Dans les bras des immortels des gars de Frozen Shadows de chez nous, ou même encore au fier cri de noir ralliement Longue vie au culte que nous nous proclamons entre nous et nous constaterons aisément alors que la quête de l'immortalité est vivement active au sein du black metal. Mais dans le black metal, l'immortalité n'est pas seulement axée sur l'affirmation du vouloir de l'homme, bien au contraire. Le black rebute la dignité humaine et au lieu, elle loue, adore et fiévreusement vénère ces puissances encore plus importantes et fermes qui s'agitent dans notre chaotique univers et qui transcendent la vie de n'importe quelle misérable créature. Les grandes forces de la nature, éternelles aux yeux de l'homme de la préhistoire et selon la sagesse de nos oracles ancestrales, sont au cœur de notre luciférienne éthique des noirceurs. Et cette valeur-là, elle est toujours aussi solidement présente dans plusieurs compositions produites par les prophètes de notre noire tradition. Comme instance de cela, nous avons Eternal Forest de la formation autrichienne Alastor, Forever Wild de l'excellente formation cascadienne Wild Reprisal et Perpetual Night de Fauna qui précéda le méchant culte black thrash norvégien Vulture Lord. Mais attention, autant que l'immortalité puisse être élevée comme pouvoir et comme privilège, elle est tout aussi bien, comme je vous l'ai dit, une malédiction. Ici aussi, les anciennes cultures du monde entier nous porte conseil, nous ayant enseigné à prendre garde et à reconnaître les malheureuses implications d'une perpétuation contre nature de la vie et à accepter notre miteuse existence telle qu'elle. Par exemple, les Grecs de l'Antiquité ont transmis la fable de Titonus, un légendaire prince de Troie qui a obtenu la vie dite éternelle de son amant, la déesse Eos, sans pourtant avoir reçu le don de la jeunesse éternelle. Des récits racontent que le prince devait une cigale, vivant toujours éternellement, mais qui supplie encore quotidiennement par son chant distinct que la mort vienne le vaincre. Les Aryens de l'Inde ancienne ont aussi raconté pour leur part l'histoire de Ashwatthama, un des guerriers des Kaurava qui, en raison d'une tentative d'infanticide royal, aurait été puni par le seigneur Krishna lui-même. Cet avatar de Vishnu l'a transformé en être immortel en guise de punition et l'a condamné à parcourir la terre entière sans trouver amour, considération ou acceptation chez quiconque. Il y a aussi de variantes allégoriques pour nous aujourd'hui, comme celle au centre de l'opéra La Marco populus. Son personnage principal boit un élixir qui la maintient biologiquement à l'âge de 42 ans. Cependant, au moment de ses 300 ans, ayant vécu tout ce qu'elle voulait vivre et par conséquent son existence rendue vide, elle choisit la bénédiction naturelle qui nous attend tous, celle de la mort. Il y a Louis, le mélancolique héros du roman d'Anne Rice devenu classique contemporain Interview with a Vampire, qui est condamné par le théâtre des vampires à une éternité de famine, enfermé dans un cercueil à coups de marteau et emmuré dans une tombe souterraine. Mais le plus intéressant exemple pour vous, chers Québécois, en est une trouvée juste chez nous dans notre répertoire de légendes canadiennes que moi-même j'ai connue en Acadie, mais dont les origines sont anciennes et nous lient à la culture des vieux pays. Il s'agit du juif errant, un genre de croque-mitaine comme notre bonhomme 7 heures ou le kalupalik des Inuits que les parents évoqueraient afin de faire obéir les enfants, mais qui en même temps, ici, incarne la condamnation catholique du peuple juif que certains toléraient mais détestaient en raison de leur refus d'accepter Jésus comme Messie. Les dires l'ont décrit comme un voleur d'enfants et un porteur de malice. Il aurait apparemment semé la terreur partout dans les hameaux médiévaux comme dans nos vieux villages en Acadie et en Nouvelle-France. Sa première mention écrite est trouvée dans un texte de Grégoire de Tours de l'an 712. Cependant, la légende est sûrement encore plus ancienne, mais de même, elle est aussi très moderne. Selon un témoignage, on aurait vu le juif errant se promener aussi récemment que dans les années 1950 et ce, dans un endroit assez urbain, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. En gros, la légende généralement explique qu'un certain homme, souvent identifié comme un cordonnier ou un autre type de commerçant, aurait nargué Jésus sur le chemin de la crucifixion et qu'en guise de punition pour sa mécréance, le Christ l'aurait maudit à errer sur la terre jusqu'à sa seconde venue à la fin des temps. Le vagabond surnaturel varie dans différentes versions, mais à Clare, en Nouvelle-Écosse, une aînée de bas de la rivière chantait qu'il s'appelait Isaac Lakedem et qu'il a bel et bien l'intention de voler les enfants des croyants du coin, se promenant avec sa charrette à bras, posant sur tous son regard mépriseur partout où il va mettre le pied. Alors, les auditeurs, l'immortalité est loin d'être un don. Peut-être même, elle est même plus qu'une simple malédiction. Elle serait une grotesquerie. Et notre appréhension face à celle-ci évoque la plus profonde de nos terreurs intérieures. C'est alors pourquoi on s'en étonnera pas que des nombreuses compulsions black nous peignent l'immortalité dans ses sombres couleurs, comme Forever Condemned de notre Horde de Trois-Rivières Strigampire, Never Ending Terror de la formation pionnière australienne Hecatombe, Everlasting Wood du projet One Man Albertain Tom Hett, et un dernier exemple, The Withering of the Bows, Because the Roads Are Unending and There Is No Place to My Mind du toujours sinistrement idiosyncratique Dead Raven Choir. Pour terminer, je vous invite à cette réflexion. Que son atteinte soit une malédiction ou une bénédiction, on pourrait dire que la quête de l'immortalité ou le développement d'un moyen compensatoire proposé dans le but de l'achever ont exercé une influence colossale sur la culture humaine, surtout celle des civilisations développées. Si l'immortalité n'est pas notre destin, il n'en demeure pas moins qu'elle soit possiblement l'ultime expression de notre plus vive volonté, portée à une fulgurante, grandiloquente hyperbole. J'ai été, je suis, et malgré tout, je serai! Alors, voici deux pièces que je tiens absolument dures comme fer noir à vous partager. Un d'eux est d'une des formations québécoises qui compte parmi mes préférés à tout jamais, du nom de Éphémère, side project du tonnerre né des rageurs esprits de frères fiels et de maîtres moribonds qui, malgré leur nom peut-être ironique, ont ensemble monté un assaut contre la perfide banalité de notre âge. Leur dernière et de seulement deux parutions, notre honneur immortel, a mis cela magistralement au clair en éclatante grandeur. Et alors deux, je vous jouerai la chanson titre de celui-ci que j'ai numérisé tout spécialement pour vous à partir de la compilation parue en 2014 chez Eisenwald Tauschmiedet. Mais avant cela, je vous présente un des rares groupes de ma province d'origine du Nouveau-Brunswick et un des encore plus rares groupes de black metal acadien, celui baptisé en 1999 Funeral Fog. Je suis honnêtement vivement fier de vous le faire connaître, car en plus d'être de mon coin du pays, Funeral Fog s'agit de mon premier band à vie de black et un auquel j'ai été présenté en live dans une rutilante initiation aux noirceurs de notre culte. Et parenthèse, non, ce ne fut pas le supposé unique spectacle joué dans une forêt du comté de Westmoreland, comme le présume Metal Archives, mais un autre tenu en 2001 au Paramount Lounge parmi une vive horde d'endiablés locaux tout aussi sauvages que les coyotes des bois de chez nous. De Kral, Nocturnis et compagnie, je vous ai choisi Immortal Summonings, troisième piste de leur premier album Under the Black Veil, paru en 2003 chez Cold Trance. Mais là aussi, je vous jouerai la version vinyle que précieusement j'ai dans ma collection, produite par l'étiquette allemande Undercover Records. Deux coups de poing au cœur dont la violence va sûrement la retentir encore et encore. Mais avant d'y passer, je tiens à vous inviter au rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis ma froide terre de Baffin, baptisé Hurlement sur la Toundra. Vous le savez sûrement, cela est diffusé chaque samedi 23h directement d'Ikraluit ou chez vous, les mercredis à minuit, sur les ondes de CJMD Lévis, mais qui est aussi disponible en balado-diffusion depuis CFRT.ca. Salutations hurlantes à vous tous, et que les sauvages enseignements de la Toundra vous troublent, vous effraient, mais surtout vous guident dans votre propre misérable mais glorieuse quête!